Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. C'est probablement dès avant la révolution d'octobre 1917 en Russie que les poètes, les artistes, les comédiens cherchent à inventer un art totalement nouveau. Un art qui, dans la vie même de la ville moderne, corresponde aux matériaux et aux idéaux de l'époque. La révolution d'octobre va permettre à ses précurseurs d'imaginer être les transformateurs de la vie collective par une beauté totalement nouvelle, constructive, éloquente, audacieuse, qui entraînerait derrière son langage un peuple de paysans et de citadins, et sans doute le communisme tout entier. Au fond, la radicalisation de l'art pour la Révolution. Certainement, une nouvelle société, un homme nouveau, une nouvelle page de l'histoire sont les éléments qui devaient permettre l'avènement d'un nouveau monde. Pour y parvenir, les artistes étaient prêts à abandonner les formes classiques. Le tableau devenu petit bourgeois et quitte, selon l'ordre du jour, à l'Armée des Arts, publié à l'hiver 1918, s'accordait pour, au nom de l'avenir, brûler Raphaël, brûler les musées, détruire et piétiner les fleurs de l'art. Les artistes ont bien quitté alors leurs ateliers pour fabriquer les meubles, les lieux, les machines, les tissus, les objets quotidiens indispensables au nouveau prolétariat et bâtir les tribunes, les affiches nécessaires à la diffusion de cette nouvelle vision du monde. Mais cette utopie concrète n'allait pas tarder à s'effondrer. L'avant-garde révolutionnaire des arts voulait guider l'avant-garde politique et cette co-construction d'un nouveau monde échoua. Les artistes qui voulurent que la société nouvelle n'ait pas besoin d'art parce qu'elle serait elle-même une œuvre d'art ne parvint pas à créer cette unité et enfermer, assassiner, suicider, exiler cette génération exaltante dut laisser sa place aux illustrateurs conventionnels qu'ils avaient ignorés. À une culture totalement nouvelle se substitua une culture de masse soviétique. C'est cette histoire pleine de paradoxes, moins binaire que je ne l'expose à l'instant, que décrit la formidable exposition, et j'incite formidable exposition, Rouge au Grand Palais, à l'instant même.
Décret numéro 1 sur la démocratisation des arts. Camarades et citoyens, nous, chefs de file du futurisme russe, de l'art révolutionnaire de jeunesse, déclarons. À partir d'aujourd'hui, avec l'abolition du régime tsariste, est supprimée l'existence de l'art dans les entrepôts et les hangars du génie humain, les palais, les galeries, les salons, les bibliothèques, les théâtres. Au nom de la grande marche vers l'égalité de tous face à la culture, que le mot « libre » de la personnalité créatrice soit noté au carrefour des murs des maisons, des murs des palissades, des toits, des rues de nos villes et de nos villages, au dos des voitures, des équipages, des tramways et sur les vêtements de tous les citoyens. Que les tableaux, les couleurs, soient tendus de maison en maison, dans les rues et sur les places, en arc-en-ciel de pierres précieuses, réjouissant, ennoblissant l'œil du passant. Que les rues soient une fête de l'art pour tous.
Et nous sentons que cette fête de l'art pour tous peut-être annonce des lendemains étranges. Pour en parler, j'ai la chance de recevoir le commissaire de l'exposition Rouge au Grand Palais, Nicolas Liucci-Goudnikov. Bonjour Nicolas, comment allez-vous ?
Bonjour Jean, très bien. Comment ne pourrais-je pas aller après cette introduction et ces compliments très aimables que vous avez bien voulu me faire ?
C'est une exposition absolument passionnante. Je rappelle que vous êtes conservateur au Centre Pompidou, vous êtes un spécialiste de l'avant-garde russe, mais aussi de l'avant-garde d'aujourd'hui. Vous êtes passionné par l'art de toutes les époques et vous avez travaillé avec une des co-auteurs du catalogue, Valérie Posner, qui est ici. Bonjour Valérie, comment allez-vous ?
Très bien, merci.
Alors vous êtes en train de préparer une somme énorme, mais qu'est-ce que c'est ?
Non, nous faisions référence juste avant que démarre cette émission à un ouvrage collectif consacré à l'histoire des studios de cinéma soviétiques pendant la guerre, leur sort pendant la guerre et la production cinématographique soviétique, une production qui est aujourd'hui très méconnue.
Parce que ça, c'est un des aspects très importants de l'exposition, c'est le cinéma, en fait. Hein. En général, quand on voit une exposition, on se dit, on va voir quelques tableaux, etc. Là, c'est global. On a l'aventure de cette période avec ses drames, ses conflits, ses espoirs. On l'a avec les tableaux, avec les architectures, avec le mobilier, avec les victimes, avec le cinéma. Et la partie cinéma, qui est celle que je connais le moins bien, mais dont vous allez nous parler tout à l'heure, est absolument fascinante. Et vous nous révélez d'ailleurs dans le catalogue, on va en parler dans quelques instants, une histoire d'un cinéma qu'on n'imagine pas du tout, qu'on a beaucoup caricaturé, je crois.
Oui, tout à fait. On a retenu en France et en général en Occident une vision très binaire. D'un côté, les quelques films d'avant-garde produits dans les années 20 de Vertov, Eisenstein, Poudovkin, Kuleshov et quelques autres. Et ensuite, pour la période dite stalinienne, on connaît ou on retient généralement les films du culte produits essentiellement dans l'après-guerre, tels que La chute de Berlin ou Le Serment, et les films plus généralement qui sont consacrés aux grands leaders bolcheviques que sont Lénine, Staline et quelques leaders morts comme Sverdlov ou Kirov. Or, la production est beaucoup plus complexe, variée, diverse. Et c'est ça que j'ai essayé de montrer dans mon article.
Et c'est rare d'avoir dans une exposition d'art au Grand Palais, en plus, ce volet extraordinaire sur le cinéma. Mais alors, on va y revenir, bien entendu, puisqu'il faut d'abord que nous plantions le décor. Et le décor, c'est, au fond, la naissance d'une avant-garde extraordinaire dès 1913, à peu près, en Russie. Une avant-garde, je crois, Nicolas, connaissance qui se développe en Europe, du futurisme au cubisme, etc., et qui va trouver son combat dans la Révolution. C'est quelque chose comme ça qui commence ?
Quelque chose comme ça. Les avant-gardes naissent, comme vous le remarquez fort justement, avant la Révolution d'octobre. Le principal mouvement qui émerge alors, c'est le suprématisme. C'est un mouvement qui reste ancré dans une idée d'un art autonome, d'un art transcendant finalement la vie et le monde réel. Ce que va enclencher la Révolution d'octobre, et ce qui est saisissant, c'est l'idée que on veut justement finir avec cet art autonome, séparé de la vie, au profit d'un art qui puisse participer à la transformation du mode de vie exigé par la Révolution. Et c'est donc le constructivisme qui est le mouvement, si l'on veut caricaturer les choses, opposé au suprématisme, qui va s'engager dans cette voie de façon extrêmement résolue, en même temps qu'il naît, proclamant quasiment immédiatement, et d'ailleurs de façon consubstantielle à sa naissance, la fin de la séparation entre l'art et la vie, et le fait que les artistes doivent aller vers l'usine et devenir des ingénieurs. Dans l'exposition, une citation de Arvatov, l'un des grands théoriciens de cet art dit de la production, indique qu'un ingénieur vaut mieux que 1000 esthètes.
Alors, c'est un moment extraordinaire parce que on sent que les artistes, les grands artistes sont prêts à tout abandonner, même leurs tableaux, pour participer à cette aventure, à créer un personnage nouveau, pour essayer d'imaginer qu'ils participent réellement à la Révolution. Effectivement, les suprématistes, c'est-à-dire essentiellement Malevitch, et puis
surtout Malevitch. Et ses élèves.
Et ses élèves à Vitebsk, probablement. Hein, donc, eux résistent parce que vous pensez que, Valérie, vous pensez que c'est à cause d'une idée théologique de l'œuvre, qu'il résiste à cette... Est-ce que le tableau est investi d'une force théologique ? Pourquoi est-ce qu'ils hésitent à renoncer ?
Non, il y a un rapport au réel qui est différent. En même temps que Malevitch et les siens, il y a Tatlin qui, lui, part sur des bases différentes. Il fabrique, il est dans la construction, mais à partir d'éléments du réel qui n'est pas l'approche de Malevitchienne.
Qui est plus métaphysique, peut-être.
Qui n'est pas métaphysique.
Qui n'est pas métaphysique, Malevitch ?
Non, je veux dire Tatlin.
Tatlin, oui, Malevitch est bien métaphysique. Et Tatlin, c'est les matériaux, c'est les matériaux humains et réels et techniques.
Voilà.
Un art matérialiste, on peut dire, qui épouse de façon quasiment naturelle l'idéologie marxiste, en quelque sorte, c'est assez fascinant.
Et puis, il faut pas oublier dans la naissance du constructivisme, en tout cas de sa première phase, certains présupposés anarchistes, n'est-ce pas ? Il y a une idée aussi de l'émancipation et de la participation de l'individu lambda. Il ne doit plus y avoir une caste d'esthètes et d'artistes face à un consommateur esthète mais passif à qui on enseignerait le beau, mais chacun va pouvoir entrer et participer. C'est le sens des actions de masse, n'est-ce pas, de ces théâtralisations ou reconstructions d'événements récents ou de grands thèmes, où participent des milliers de gens qui sont pris parmi les habitants de la ville.
Oui, parce que le décor est la ville elle-même. Et ces grands événements de masse, effectivement, doivent célébrer cet événement collectif, l'apparition de cet objet mystérieux qu'est le communisme, quand même, et qu'il faut mettre en scène, absolument.
Absolument. Nicolas. Ce qui est saisissant, c'est qu'on se rend compte que dès après la Révolution, dès quelques mois après la Révolution, les artistes appellent à ce que l'art se translate dans la vie, qu'il envahisse la vie, et on voit fleurir, comme Valérie le mentionnait, des actions de masse qui sont stupéfiantes. Et dans l'exposition, on montre une action qui est restée mythique, un spectacle de masse resté mythique, qui est mis en scène 3 ans après la Révolution d'octobre, dans les lieux mêmes du coup d'État bolchevique, et rejoue ce coup d'État, convoquant pour ce faire des milliers de figurants, dont certains ont participé 3 ans auparavant au coup d'État même, et devant une assistance de plusieurs milliers de spectateurs. La pièce rejoue la période pré-révolutionnaire. On y voit apparaître des banquiers spéculateurs qui portent des sacs de billets. Et puis après, on voit la prise du palais par les soldats bolcheviques, on peut dire. Tout cela, évidemment, étant en partie rejoué, puisque à cette époque, l'histoire a tendance à être en partie réécrite et le coup d'État transformé en un mouvement de masse révolutionnaire.
Alors, écoutons peut-être un personnage dont vous allez nous parler, parce qu'il a une importance considérable dans l'aventure, une importance enthousiasmante et tragique à la fois, qui est Maïakovski. Écoutons le fameux poème de Maïakovski qui appelle à faire déborder l'art des lieux consacrés aux représentations. C'est ce que vous nous décriviez l'un et l'autre à l'instant même. L'art est essentiel à la révolution.
Tous les soviets ne pourront faire marcher l'armée si les musiciens n'ouvrent point la marche. Traînez les pianos dans les rues. Arracher avec des grappins les tambours des fenêtres, briser tambours et pianos pour faire vacarme et tonnerre. À quoi sert-il de suer dans les usines, de fourrer la gueule dans la suie et de cligner avec des yeux de chouette sur le luxe des autres pendant le repos ? Assez de vérité d'un sou, balaie tout ce que tu as de vieux dans le cœur. Les rues sont nos pinceaux et les places publiques nos palettes. Dans le livre du temps à 1000 pages, les jours de révolution ne sont pas célébrés. Dans les rues, futuriste, joueur de tambour et poète.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière, et nous venons d'entendre Maïakovski dire « Les places publiques sont nos palettes » dans le livre du temps à 1000 pages. C'est un moment extraordinaire parce que si les rues sont nos pinceaux et au fond les places publiques nos palettes, ce que vous soulignez, Nicolas, souvent dans le catalogue, c'est que les artistes ne sont plus dans leur atelier. Tout a changé, donc qu'est-ce qui se passe ?
Les artistes sortent de leur atelier.
Ils vont dans l'usine ?
Ils vont en partie à l'usine, pas tous, mais en tout cas, certains ont vocation à y finir. Et c'est ce à quoi les incitent différents théoriciens de l'art, comme Ossip Brik ou Boris Arvatov. Il y a un événement extrêmement marquant dans cette histoire. C'est une très fameuse exposition qui s'appelle 5x5=25, qui se tient en septembre 1921 à Moscou. Le titre est étrange, mais en fait, il est extrêmement analytique, puisque 5 artistes présentent chacun 5 œuvres. Ces 5 œuvres sont en quelque sorte leurs adieux respectifs aux beaux-arts, qu'ils jugent bourgeois. Et parmi ces 5 artistes, on a des noms inoubliables comme Rodchenko, Stepanova, Papova, Exter et Vesnin. Rodchenko présente 3 monochromes qui vont devenir ensuite un triptyque, mais à l'époque, ils n'en sont pas encore un. Pur rouge, pur jaune, pur bleu,
qui ne sont que l'aplat d'une couleur sur la toile, donc de la pure couleur, et pure rouge sera décrit 2 ans après par le grand critique d'art Nicolas Tarabukhine comme le dernier tableau après lequel la peinture doit se taire. C'est donc vraiment un adieu radical que ces artistes vont faire aux Beaux-Arts pour s'engouffrer et aller vers toutes les disciplines susceptibles de changer la vie directement. Ce sera donc le design, l'architecture, les affiches, les arts imprimés en général, et puis le théâtre qui tient une place importante dans l'exposition.
Alors Valérie, ce dernier tableau qui est dans l'exposition, rouge, donc un élément mais à l'origine autonome donc de ce triptyque célébrissime, le dernier tableau selon Tarabukhine, c'est véritablement la fin de quelque chose, c'est un manifeste, il faut le lire comme un manifeste.
Tout à fait, c'est clairement un manifeste qui est repris et décliné au même moment, comme le dit Nicolas, dans tous les arts et aussi dans le cinéma. C'est-à-dire que pour les débats immédiatement s'organisent autour de la notion de réel. Il faut quitter le studio comme boîte fermée avec des acteurs à qui on a enseigné de revivre en quelque sorte les émotions de leurs personnages, des fictions éloignées de la vie quotidienne des gens. Il faut aller filmer le réel, c'est-à-dire mettre les caméras dans les rues. Et c'est ça qui doit passionner le cinéaste.
Et le gouvernement va considérer d'ailleurs que le cinéma est l'art majeur. C'est ce qu'il faut absolument soutenir.
Un des arts majeurs,
c'est
disons.
Pas Lénine qui est considéré.
Alors, cette parole a été rapportée par Lunacharsky, qui l'aurait dit à un spécialiste d'histoire du cinéma, qui, en quelque sorte, à partir de là, va promouvoir. Et elle sera ressaisie ensuite par le chef de la cinématographie à partir, disons, de la fin des années 20.
Alors, vous avez parlé de Lunacharsky, c'est un personnage clé quand même dans l'affaire. Vous pouvez nous raconter qui c'est ?
Alors, c'est le commissaire du peuple à l'instruction qui va rester en place jusqu'à la fin des années 20 pour être marginalisé à partir de 29, disons, et qui a des goûts finalement personnels assez classiques ou réactionnaires. Il appelle à partir de 1923 au théâtre notamment, à revenir à Ostrovski, c'est-à-dire un dramaturge du 19e siècle et une forme, disons, théâtrale plus familière, disons, au spectateur bourgeois qui est le spectateur du théâtre classique.
Alors que les grands artistes qui participent à la création de décors de théâtre au début de ces années-là, je pense à Alexandre Exter en particulier, font des dispositifs théâtraux d'une innovation totale, font des travaux sur le corps, essayent d'imaginer des mouvements du corps qui évoquent le mouvement des machines. Il n'y a pas quelque chose de totalement délirant?
Popova fait des décors constructivistes, Meyerhold met au point sa théorie de la formation de l'acteur, la biomécanique.
La biomécanique, il faut que vous en disiez un mot, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Il y a surtout quelque chose de merveilleux dans cette exposition. Ce sont justement les quelques images que nous avons d'exercices de biomécanique, qui est une formation pour l'acteur qui, justement, ne repose plus ou qui prend le contre-pied du système de Stanislavski, qui est un système qui repose sur le développement de la psychologie, n'est-ce pas, et de l'intériorité de l'acteur, pour au contraire travailler sur le geste signifiant. N'est-ce pas ? Et donc, nous voyons sur un écran à l'intérieur de l'exposition des exercices de formation de l'acteur meyerholdien qui sont absolument formidables.
Alors là, on est très très loin de ce retour au théâtre classique que vous évoquez, puisque là, on est dans une audace qui est d'ailleurs généralisée, parce que quand on voit dans l'exposition les dessins d'architecture, on comprend que c'est une nouvelle ville, les tribunes politiques, on comprend que c'est des nouvelles formes qu'on n'a jamais imaginées appartenir au monde visuel comme ça de notre présent et qui sont encore aujourd'hui, si on les construisait, d'une audace folle. Et puis il y a aussi la façon dont on développe partout dans le pays avec les poètes, avec Mayakovsky en particulier, ces fameuses fenêtres. Qu'est-ce que c'est que ces fameuses fenêtres, Nicolas ?
Alors, ce sont des affiches qui apparaissent...
Ça s'appelle comment ?
Fenêtre Rosta.
Rosta, oui. Pourquoi ?
Alors, fenêtre, parce qu'en russe, fenêtre se dit akno, et que akno veut dire aussi vitrine. Donc, c'était des affiches qui étaient montrées dans des vitrines, des magasins vides pendant la guerre civile. Et le mot Rosta, en revanche, serait l'acronyme de ce qui était une sorte d'AFP de l'époque de la Russie soviétique, donc une agence de presse. Donc, ces affiches montrées dans les vitrines étaient publiées par l'agence de presse de la Russie soviétique, et elles informaient le public de l'avancée de la guerre civile, et parfois elles contenaient des messages purement idéologiques. Elles étaient pour beaucoup rédigées par Mayakovsky, qui en a été l'acteur le plus truculent, le plus extraordinaire.
C'est quasiment des, au sens politique, des haïkus politiques.
Ce sont des haïkus tout à fait, dans la mesure où ce sont des... C'est tout de même de la poésie, mais extrêmement laconique. Donc, accompagnés de dessins, eux-mêmes laconiques, réalisés selon une très forte économie de moyens, que parfois Mayakovsky conçoit lui-même, parfois délègue à d'autres artistes, et tout cela donc résulte en des centaines d'affiches qui ont toutes été réalisées au pochoir et montrées dans différentes villes de l'URSS.
Valérie, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus ?
Non, justement, sur l'économie de moyens et cette technique de pochoir, polychrome quand même, qui permet une reproduction, mais évidemment pas à des centaines d'exemplaires. Et elles sont chargées sur des trains qui sillonnent la Russie, dans les régions qui sont tenues par les Rouges pendant la guerre civile, et donc parviennent dans des villes de province et peuvent être placardées généralement, effectivement, sur des vitrines de magasins.
Quand on voit les photos de ces trains, Nicolas, dans le catalogue ou dans l'exposition, complètement habillés de décors, complètement envahis d'images, sans doute portant des paroles, des conférenciers, et qui se déplacent, il y a une vingtaine de trains qui se déplacent dans toute la Russie. Il faut imaginer cet immense territoire, composé d'ailleurs, et je crois que ça a une influence de 50% d'analphabètes. Et je pense que c'est à considérer. C'était quelque chose d'extraordinaire.
Lorsqu'on se projette à cette époque et qu'on imagine ces trains qui étaient de véritables centres d'art roulants, en quelque sorte, vous aviez des bibliothèques, vous aviez des salles d'instruction, vous aviez des salles de projection, on y faisait du théâtre, on y tenait aussi des meetings politiques. Le train s'arrêtait dans différents villages, et dans les films que l'on montre dans l'exposition que Valérie a choisi, on voit comment les villageois et les gens de province s'amassent autour de ces trains. En tout cas, on est stupéfait par cette innovation, cette ingéniosité extrême.
Parce que les images politiques qui sont sur les trains, c'est pas des images de politique ordinaire, c'est fait par les plus grands artistes de l'époque.
Les plus grands artistes de l'époque y participent. Un des futurs grands peintres de l'époque soviétique et un des grands héros de l'exposition, Alexandre Deïneka, participe notamment à la conception de ces dessins sur les façades, sur les murs des trains. Ce sont une véritable fresque à contenu politique, faisant la propagande à la fois de l'éducation nécessaire des masses, de la libération de la femme, évidemment de contenu plus idéologique, faisant la promotion du communisme. En tout cas, une innovation majeure, extrêmement ingénieuse, qui laisse songeur lorsqu'on se projette là encore dans ce qui était possible dans ces temps-là, c'est-à-dire que un pays qui était quand même dévasté par la guerre civile en cours, qui trouve quand même les moyens de mettre en place ce genre de dispositif tout à fait saisissant et qui n'ont pas eu d'équivalent, à ma connaissance, depuis lors.
Alors évidemment, tous ces dispositifs dont vous parlez, ceux qu'on étudiait à l'école des Beaux-Arts de Vitesse avec Malevitch et ses étudiants, mais aussi avec les autres, je pense pas à Chagall qui était un petit peu dans une autre atmosphère, mais enfin, ce qu'on voit apparaître en tout cas dans toute cette révolution, c'est une sorte de, Lénine aurait dit, de biscuit délicieux. C'est le moment incroyable où l'avant-garde, qui est quand même très élitiste, essaye de devenir populaire. Et on a l'impression, et vous allez nous en parler, Nicolas, j'espère, on a l'impression, quand on lit quelques textes de Lénine, que Lénine avait finalement, dès l'origine, un petit doute sur cette question. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes en 1918, c'est cité par Clara Zetkin en 1925, et déjà, il y a une fêlure entre l'idée d'avant-garde et l'idée d'art populaire.
L'art doit appartenir au peuple. Il doit plonger, ses plus profondes racines dans la foule des larges masses laborieuses. Il doit être compréhensible de ces masses et être aimé par elles. Faut-il proposer à la petite minorité des biscuits délicieux quand les ouvriers et paysans ont besoin de pain noir ? J'entends cela, non seulement au sens littéral, mais aussi au sens figuré. Nous devons toujours garder devant nos yeux les ouvriers et les paysans. Pour eux, nous devons apprendre à gérer, à compter. Et cela vaut également pour le domaine de l'art et de la culture.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière. Nous parlons de l'exposition Rouge qui est consacrée donc à l'avant-garde russe au moment de la Révolution et au développement des arts dans la période soviétique, bien entendu. Je suis pour en parler avec Valérie Posner, chercheuse au CNRS, et Nicolas Liouchi-Goutnikov. Et nous avons l'impression, me semble-t-il, qu'il y a déjà à l'origine une fêlure ou un malentendu qui existe entre l'avant-garde et l'art populaire.
Il y a un malentendu, je pense, entre les avant-gardes et le pouvoir. Lunacharsky, dont a parlé Valérie précédemment, est celui qui a permis aux avant-gardes d'occuper très brièvement des postes de responsabilité au sein de l'État bolchevique, mais aussi rapidement, les premières critiques vont pleuvoir sur ces artistes d'avant-garde. Elles émanent, comme l'extrait le montre, de Lénine lui-même. On connaît les critiques aussi que Trotsky a pu formuler contre ces artistes d'avant-garde, dont on juge que les œuvres sont éloignées du goût des masses, sans que de véritables preuves d'ailleurs l'attestent. En tout cas, il est clair que dès 1922-23, la situation a évolué et les peintres réalistes, souvent issus de l'ancien régime, vont recueillir les faveurs du pouvoir bolchevique.
C'était les académiciens de l'époque tsariste, en fait.
Et puis après leurs élèves, bien sûr, plus jeunes, qui vont réadapter leur vocabulaire pictural à la situation du temps, c'est-à-dire à des thématiques déjà socialistes. Ils vont montrer les ouvriers, les paysans, bien entendu, les chefs. Lénine meurt en 1924 et son culte commence immédiatement après sa mort. Et l'exposition montre notamment une grande toile de Brodsky, un peintre déjà très connu sous les tsars, qui se recycle en quelque sorte sous le régime bolchevique et qui va représenter en grande pompe les funérailles de Lénine. On voit autour du cercle de Lénine tous les hiérarques de l'époque du parti communiste. Certains seront exécutés sous Staline et donc ce tableau disparaîtra dans les années 30 des cimaises du musée où il était accroché.
Oui, j'ai entendu à la radio que vous ne faisiez pas assez de place aux victimes, c'est vrai ?
J'ai été surpris en effet de l'entendre également sur votre chaîne à une heure de grande audience, puisque une salle tout entière est consacrée à la répression qui s'abat sur la population à l'époque de Staline. Lorsque Staline concentre tous les pouvoirs en 1929, il met en place, comme chacun le sait bien, une politique de répression féroce qui accompagne une politique de collectivisation forcée, d'industrialisation à marche forcée. Et donc dans cette salle que nous consacrons à ce sujet dramatique, nous montrons pas mal de documents relatifs au goulag. Nous montrons notamment des procès staliniens. Nous montrons des ouvrages caviardés par les artistes. Donc je pense que ce critique d'art a peut-être été distrait, et n'a pas prêté attention à ces documents extrêmement rares. Un des documents que nous montrons dans la salle consacrée à la répression est le reportage que Rodchenko va réaliser sur le chantier du creusement du canal de la mer Blanche, un canal voulu par Staline et pensé comme un projet de rééducation des masses par le travail. Ce canal est creusé par des prisonniers du goulag. Des milliers de ces personnes meurent durant la construction de ce canal, mais le pouvoir bolchevique, à l'époque en tout cas, pense idoine de faire la propagande de ce grand chantier. Donc Rodchenko est envoyé sur place pour en documenter la construction et son reportage est publié dans la revue L'Urs en construction. Dans l'exposition, ce qu'on essaie de montrer justement dans cette salle consacrée à la répression, c'est aussi le fait que certains artistes qui sont les victimes, qui sont assassinés par le régime, sont des artistes qui ont pourtant mis leur travail à l'entier service de ce régime totalitaire. La salle consacrée à la répression est ouverte par un par un collage de Clootzis qui décrit l'évolution depuis Karl Marx jusqu'à Staline, en passant par Friedrich Engels et Lénine. Clootzis met son génie, sa virtuosité créative au service du régime. Il est néanmoins fusillé en 1937 ou 8 au motif fallacieux et évidemment inventé d'un complot d'artistes lettons, Clootzis et lettons, contre l'État soviétique. Donc il y a une espèce d'irrationalité qui semble absolument incompréhensible aujourd'hui. On se demande encore pourquoi et comment ces artistes qui ont mis leur art au service du régime ont pu finir dans des conditions aussi dramatiques.
Ou se suicider comme Mayakovsky.
Ou bien comme un autre artiste que l'on montre dans l'exposition qui s'appelle Kouptsov, qui est un élève de Pavel Filonov, grand artiste d'avant-garde de Petrograd, de Leningrad. Kouptsov, en 1935, reçoit la visite du NKVD, donc les services secrets de l'époque soviétique. Il est perquisitionné. Tout cela se passe dans le cadre d'une lutte contre le formalisme et plus précisément des élèves donc de Filonov. Et il est tellement angoissé de son avenir probable, d'un probable procès pour l'exécution, qui se suicide. Tout cela est indiqué dans l'exposition avec l'œuvre de cet artiste, donc Kouptsov, qui est un artiste par ailleurs qui peignait des dirigeables, qui
d'ailleurs, c'est le tableau de dirigeables qui est dans l'exposition est absolument stupéfiant.
Absolument stupéfiant. C'est un artiste qui avait essayé d'adapter son vocabulaire d'obédience filonovienne aux innovations technologiques, aux avancées technologiques de l'URSS en termes aéronautiques. Et donc toutes ces histoires sont tragiques et l'exposition essaye de les montrer. C'est pourquoi lorsqu'on entend certaines critiques par ailleurs de l'exposition parler de croûte ou de choses comme ça, je trouve que ce sont des commentaires qui sont assez affligeants lorsque l'on connaît la situation de ces artistes, la façon dont ils ont dû négocier, composé avec des obligations idéologiques, avec des contraintes de l'État. Donc on n'est pas du tout dans une situation artistique telle qu'on la connaît en Occident. Et je trouve qu'il faut peut-être employer d'autres termes lorsqu'on parle de ces œuvres qui sont à la fois des œuvres intéressantes par leur qualité plastique, mais aussi par leur biographie et celle des artistes qui les ont réalisées.
Alors il y a un artiste qui a quand même vécu aussi dans la crainte, mais qui a bien compris ce qui se passait et qui, dans son journal, l'annonce de façon assez précoce en 1924. Je pense à Malevitch, écoutons-le.
Le communisme est continuelle animosité et atteinte à la quiétude, car il aspire à soumettre toute pensée et à la détruire. Aucun état d'esclavage n'a encore atteint le degré de celui que porte le communisme, car la vie de chacun dépend de son leader.
Vous avez entendu cela, Valérie. C'est une phrase que vous connaissiez, bien sûr, mais qui est surprenante, qui est précoce.
On peut penser déjà à Zamiatine en 1921, qui, dans Nous, parfois traduit Nous autres, qui est une dystopie, dénonce justement la dictature du collectif. Nous sommes en 21, n'est-ce pas ?
Oui. Alors, il va y avoir un groupe qui s'est fondé au milieu des années 20, je crois, qui a un nom que je ne sais pas prononcer. Peut-être, Nicolas, vous pourriez le faire. Acher.
Alors, en russe, on prononce Acher. C'est l'association des artistes de la Russie révolutionnaire qui regroupe donc tous ces peintres traditionnalistes dont j'ai brièvement parlé précédemment et qui vont être donc ces artistes acceptant de réadapter leur production des thématiques socialistes. C'est un groupe qui va devenir extrêmement important puisqu'il va capter les subsides de l'État. C'est un groupe qui va proposer à l'État d'organiser de grandes expositions thématiques à la gloire de tel ou tel aspect de la société en cours de construction. Et donc, ils vont monopoliser les fonds publics. Et d'ailleurs, beaucoup d'artistes vont se réunir pour écrire une lettre de protestation officielle dans les années 20 contre le monopole de cette association. L'association va...
Elle est plébiscitée, parce qu'au fond, l'idée des politiques, c'est de dire, on va montrer des œuvres qui non seulement illustrent les enjeux du pouvoir, mais aussi qui ont une qualité descriptive qui va les rendre populaires. C'est déjà d'ailleurs un mouvement qu'on peut élargir à l'Europe, peut-être de façon moins criante, mais un petit peu aussi, non ?
Ce qui est certain, en effet, c'est que le pouvoir est en attente d'images qu'il considère comme compréhensible pour les vastes masses.
Et c'est donc, le cas, les masses sont enthousiasmées.
On a du mal à connaître aujourd'hui, Valérie saura sans doute mieux dire que moi, la réception de ces œuvres à l'époque soviétique. Ce qui est certain, en tout cas indubitablement, c'est que l'État favorise ce genre d'œuvres d'art figuratives. Ce qui est important de signaler, et ce que l'exposition essaye de montrer, c'est que de l'autre côté de l'échiquier politico-artistique, si l'on peut dire, donc du côté gauche, du côté des avant-gardes, en 1925, une nouvelle association est créé, qui s'appelle LOST, Société des artistes de Chevalet, qui regroupe de plus jeunes peintres qui ont été formés dans les bastions des avant-gardes, les Frutemas, et vont avoir à cœur de réinventer la peinture, mais en n'y incorporant, n'y assimilant tous les apports des avant-gardes en termes de photomontage, de point de vue photographique. Et c'est donc, en quelque sorte, ces deux associations opposées politiquement qui vont être bon an mal an réunies par Staline en 1932, qui vont contribuer à la lente genèse de l'esthétique qu'on appellera réaliste socialiste. Un réalisme.
Nicolas, pardon, mais vous avez dit un mot qu'il faut absolument qu'on en reparle parce que, quitte à être faire un léger retard chronologique, un flashback, comme on dit. N'est-ce pas, Valérie, c'est les Frutemas. Parce que les Frutemas, c'est quand même une unité de production qui a inventé les formes les plus hallucinantes pour le mobilier, l'architecture, etc. Comment ça marchait, ces Frutemas ? Valérie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça ?
Les Frutemas sont vraiment le creuset de la pensée constructive et du constructivisme russe, n'est-ce pas ? Ils font suite à d'autres expériences d'unités de formation, mais disons, c'est vraiment le Frutemas et ses différents départements, mobilier, textile, etc., qui vont vraiment former la jeune génération, disons la deuxième génération des artistes d'avant-garde en Union
soviétique. Nicolas, est-ce que c'est le Bauhaus russe ?
On peut le dire, bien entendu, même si...
Cette école d'art
bien entendu,
allemande extraordinaire.
Ce qui est certain, c'est que le point commun entre les Frutemas et le Bauhaus, c'est l'idée qu'on déhiérarchise les disciplines artistiques. Donc, il existe encore une faculté de peinture au Frutemas, mais elle n'est pas favorisée par rapport aux facultés de travail sur le bois, de travail sur le métal, d'architecture, d'art graphique. C'est une école, donc, dans laquelle vont enseigner tous les grands héros de l'exposition et des avant-gardes en général de cette époque. On y retrouve Rodchenko, on y retrouve des femmes aussi, artistes, dont on a peut-être pas encore assez parlé, comme Lyubov Popova ou Varvara Stepanova.
Extraordinaire tissu, par exemple, un travail sur les tissus qui... pas l'équivalent de Sonia Delaunay, mais au fond pas si éloigné d'un point de vue formel, et qui étaient des tissus qui étaient destinés à être portés par tous, comme Rodchenko fait des habits pour tous les ouvriers. C'est fantastique. On imagine visuellement tout un pays transformé, au fond. Comme idéal, hein. Ça n'a pas marché, mais
c'est. Ce qui est fascinant, d'ailleurs, dans le cas de ces deux artistes, c'est que contrairement à leurs comparses hommes, elles ne vont pas hésiter, donc Popova et Stepanova, à aller à l'usine, dans l'usine de textile, pour non seulement faire produire leur design, mais aussi repenser le processus de production. Et le design textile sera par ailleurs le seul segment de la production constructiviste qui va être vraiment réalisé en série, puisque les meubles conçus par exemple par Rodchenko resteront en état de prototype. Ce que Popova, Stepanova et leurs élèves dans les Frutemas conçoivent et produisent, et donc dans l'exposition on montre des tissus bel et bien tissés, industrialisés, et c'est donc tout à fait admirable aussi de leur part que d'avoir choisi non seulement de quitter les Beaux-Arts, mais aussi d'aller travailler dans les usines.
Alors je suis désolé parce que j'ai fait un retour en arrière, j'espère que l'auditeur ne sera pas totalement paumé. En fait, on essayait d'aller vers l'avant, c'est-à-dire d'aller vers en avant comme avant, comme s'appelait à une époque un groupe d'avant-garde, c'est-à-dire vers la peinture figurative, descriptive et politique qui naît avec Staline, en fait, après la mort de Lénine. Non, je sais pas, c'est pas exact, Valérie.
Oui,
je vous vois hurler devant nous. Allez-y.
Non, je dis simplement cette histoire est vraiment complexe, c'est-à-dire que il y a effectivement les constructivistes, mais les constructivistes occupent un segment de la scène artistique. À ce même moment, il y a les gens de l'art, il y a aussi les gens de l'Ost, donc la société des peintres de Chevalet. Et puis, il y a vraiment un débat. Il y a des revues, des journaux dans lesquels ces différents protagonistes s'expriment et, disons, s'affrontent par leurs écrits, non seulement par leurs toiles, mais aussi par leurs écrits. Et c'est cette diversité, parfois d'affrontements très violents, n'est-ce pas, qui va prendre peu à peu fin au début des années 30. Pour autant, on ne peut pas dire que toute diversité disparaît dans les années 30. Et c'est aussi une part que je trouve très intéressante de l'exposition, c'est de montrer quand même une part de cette complexité ou de cette variété ou de cette richesse des années 30 qui ne se résume pas à quelques grands formats Staline au chevet de Gorki mourant.
Alors, avant que de donner la parole à Nicolas, parce qu'il va nous répondre là-dessus, je voudrais, puisque vous parlez des débats, vous faire écouter, nous sommes en 1929, un débat, c'est une réaction d'un lecteur à propos de la nature morte. Écoutons-le.
En quoi la nature morte peut-elle être révolutionnaire? Avant tout, dans le choix de ses sujets. Représenter l'éclat de l'acier, les rayons de lumière sur un marteau ou sur les parties d'une machine, n'exige pas un talent technique pictural plus grand que celui qui est nécessaire à la représentation de harengs ou de bocaux. Ensuite, il faut doter la nature morte d'un sens. Pourquoi ne pas prendre pour thème, petit 1, des instruments d'une activité quelconque, forge, charpenterie, etc. Petit 2, le coin de l'aviation civile, les réacteurs, une partie du moteur, etc. Petit 3, les fruits de l'exposition agricole, la récolte de telle commune ou de telle sauve-cause, etc.
Vous êtes sur France Culture et nous vous écoutez L'Art et la Matière. Nous parlons de Rouge, cette aventure de l'art soviétique entre la Révolution d'octobre. Et ça se termine quand d'ailleurs l'exposition en période, la période d'exposition, Nicolas?
Elle se termine en 1953, date de la mort de Staline.
Et alors là, nous entendions ce débat. Au fond, on a l'impression que le lecteur ou le contributeur qui débat justement sur la nature morte nous propose de faire des machines un petit peu comme celles que fera Picabia en France. Mais il y a bien une différence. Quelle est-elle, Nicolas?
Ce qui est saisissant à cette époque, c'est de constater combien on s'interroge de façon extrêmement analytique sur ce que doit être un art socialiste. Et l'extrait que vous avez diffusé est tout à fait significatif de ce genre de débat. Et l'exposition ne peut pas le montrer puisqu'il faudrait un livre tout entier pour démontrer la façon dont différents critiques vont s'opposer dans cette définition. Ce que l'exposition, en revanche, retrace, c'est la façon dont le réalisme s'impose en tant que concept et fait consensus au cours des années 20, et comment finalement chaque groupe artistique va essayer de tirer vers lui ce réalisme. Les constructivistes vont se dire les plus réalistes que tous via le photomontage. Les peintres, évidemment, vont défendre la tradition du réalisme selon différentes obédiences. Les débats se concluent plus ou moins au début des années 30 avec l'arrivée de Staline au pouvoir et l'énonciation par Jdanov du réalisme socialiste en 1934, qui est à l'époque un simple mot d'ordre qui vient de la littérature et qui, pour les autres disciplines, notamment visuelles, n'est que très très mal défini. Et donc, durant les années 30, ce sont les peintres eux-mêmes qui vont essayer d'anticiper les attentes de l'État en matière donc de réalisme socialiste. C'est ce qu'explique très bien d'ailleurs Cécile Pichon-Bonin dans son article, dans le catalogue et dans son très bel ouvrage d'ailleurs sur la peinture de Lost.
Ce que l'on sait, en tout cas de façon extrêmement claire dès le début, c'est que c'est un réalisme qui n'a pas vocation à représenter le monde comme il est, c'est-à-dire un monde en construction, un monde de, quand même bien sûr dur labeur. C'est un réalisme rêvé qui a pour vocation de représenter le monde du futur socialiste et surtout de donner à voir à la population russe des modèles dans lesquels cette population serait censée s'identifier, auxquels elle serait censée s'identifier. Donc vous allez voir fleurir dans les peintures, évidemment, des ouvriers très vaillants, des colcosiennes souriantes,
des
soldats courageux, des jeunes femmes sportives, autant donc de modèles que l'on propose à la population. C'est un réalisme par nature mensonger, si cela peut avoir un sens, puisqu'il se projette, c'est un réalisme en fait projectif qui est censé présenter le monde de demain.
Alors les artistes de cette figuration irréaliste, en fait, c'est ce que vient d'expliquer Nicolas, Valérie, ont-ils l'occasion, que ce soit dans le cinéma ou dans la peinture, de voir autre chose que ce qui est en train de se refermer dans ce pays ? Est-ce que le cinéma, par exemple, si je suis un amateur de cinéma en URSS, à ce moment-là, est-ce que j'ai accès à autre chose que le cinéma soviétique ?
Alors, oui.
Ah.
Et comment ? Je dirais que, d'abord, jusqu'en 27, les écrans sont dominés par la production étrangère. L'industrie cinématographique soviétique ne sont pas capables de
d'occuper toutes les salles.
Tout simplement.
Ça, c'est, ouais, oui. Mais qu'est-ce qu'on regarde à ce moment-là ? Que des films
politiques ? On regarde pas du tout. Dans les années 20, on regarde du cinéma allemand, du cinéma américain, énormément importé du cinéma même français.
Vous voulez dire de l'apologie du capitalisme, quasiment ?
Pas du tout. Puisque ces films, parfois, font l'objet de remontages, de façon à ce que leur discours idéologique soit atténué.
Oui.
Mais il n'empêche que les Russes voient tous les Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton et adorent ce cinéma-là, n'est-ce
quand
pas ?
Quand même pas Walt Disney.
Et Walt Disney va arriver un peu plus tard, dans les années 30. Et même, Walt Disney va entraîner une véritable révolution dans le monde de l'animation soviétique. On est bien loin du réalisme socialiste.
Ben oui.
Or, en 1935, le chef de la cinématographie, Choumiatsky, demande aux animateurs, fait une apologie des films de Disney qui ont été montrés en janvier 1935 lors du premier festival du cinéma de Moscou, et il l'érige véritablement en modèle à imiter. Non seulement en modèle à imiter pour son graphisme, pour la fluidité de la ligne, pour les personnages, etc., pour le rire, pour les thèmes, c'est absolument extraordinaire de lire cette apologie de Disney, mais aussi pour l'organisation de la production, qui doit être divisé, n'est-ce pas, division totale du travail, alors que autrefois on avait un système où le réalisateur était le dessinateur et faisait en quelque sorte avec une toute petite équipe réduite son film.
Heureusement, parce que vous me surprenez quand même avec cette aventure, moi je pensais que c'était Eisenstein ou rien, quoi, grosso modo. Donc je n'avais pas compris. Mais heureusement, je pense que je vais être rassuré, au moins en peinture, il ne voit que l'art russe, que l'art soviétique.
Et
Nicolas.
Non plus, mon cher Jean, puisque en URSS, on continue à montrer de l'art occidental. Alors, se tiennent d'ailleurs des expositions d'art moderne, notamment d'art moderne français, si mes souvenirs sont bons, en 1928, mais je peux me tromper, où l'on voit une peinture d'un modernisme assagi et pas très politisé. Ce qui domine tout de même de façon plus marquée, ce sont des expositions d'art international révolutionnaire. En 1924 se tient une très importante exposition d'art allemand dans laquelle sont présentées des centaines d'œuvres d'artistes proches du Parti communiste allemand. Ce sont des œuvres d'un réalisme critique qui va vite finalement trancher avec ce réalisme socialiste à la soviétique, puisque ce réalisme critique évoque une profonde noirceur et critique de façon extrêmement virulente les injustices sociales. Après, il va aussi y avoir à Moscou, donc dans la troisième Rome socialiste à l'époque de Staline, pas mal d'artistes étrangers qui vont venir s'établir quelque temps sur place pour découvrir la patrie du socialisme. Le grand artiste belgo-français Frans Masrel réside deux fois à Moscou. Il va même chercher, dit-on, à avoir un atelier, puisqu'il est a priori séduit par ce qu'il découvre. Des artistes hongrois vont également, ayant fui la République des Soviets, vite matée à Budapest, émigrer ensuite vers Moscou. Le grand John Hartfield, le grand photomonteur, va lui-même être à Moscou en 1930-31, résider quelques mois et y avoir sa première exposition monographique. Donc il y a une activité internationale à Moscou que nous essayons de montrer à travers deux salles dans l'exposition, des salles qui sont à mon sens largement inédites.
Est-ce que vous trouvez que cette peinture réaliste qui va être caricaturée par les artistes soviétiques au moment de la glasnost, qui va être rendue même kitsch, ils vont la parodier, est-ce que vous pensez qu'elle a une qualité ?
Encore faudrait-il s'accorder sur ce que l'on entend par peinture réaliste socialiste. Si l'on entend par peinture réaliste socialiste ce qui advient dans le canon historique à la fin des années 30, cette espèce de glaciation totale que connaît l'art soviétique, le modèle qui est pris en charge par le régime, qui est celui des itinérants, donc un groupe académique du 19e siècle russe, oui, c'est un art kitsch dans la mesure où il ne fait que répéter les mêmes codes formels. Il produit de pures images qui sont des images évidemment de propagande faisant la géographie totale des chefs, et elles sont à ce titre ennuyeuses. Si l'on entend cette question du régime socialiste de façon un petit peu plus large et qu'on y met aussi ce qui précède son avènement, on peut bien sûr trouver des choses qui sont tout à fait stupéfiantes. Et moi, j'insiste sur le fait que des artistes comme Deneïka ou Samorvalov...
Deneïka, c'est une des grandes surprises de l'exposition, hein, Valérie. Je trouve que c'est... Enfin, pour moi qui ne le connaissais pas, j'ai trouvé que c'était admirable.
Oui, toute son œuvre est tout à fait passionnante. Et c'est un artiste qui passe de longs mois, dans les années 30, en Italie notamment... On ramène des toiles qui sont absolument, ou qu'il peint à son retour, des toiles absolument splendides, artiste qui mériterait une exposition entière, enfin.
Oui, parce qu'il est au fond assez méconnu en France, en tout cas. Hein, il y avait des contacts entre les artistes français et les artistes russes, par exemple. Est-ce que Marquet ne serait pas allé en Russie dans cette période-là ?
Absolument, Marquet est allé en Russie, et son voyage d'ailleurs à Saint-Pétersbourg a beaucoup marqué la population artistique locale. Et ce qui est très intéressant, je m'en suis rendu compte pour d'autres projets d'exposition au Centre Pompidou, notamment pour notre collection nationale, que pas mal d'artistes de Saint-Pétersbourg, à l'époque Leningrad, ont peint à la manière de Marquet juste après le voyage de celui-ci, qui était membre du Parti communiste, par ailleurs, dans la ville. Donc ces voyages ont été, de fait, réalisés.
Il y a aussi le grand lycier, Lursa.
Lursa, bien sûr.
Communiste aussi, hein, très engagé.
Absolument. Mais cette URSS des années 20 et plus encore dans les années 30, elle va attirer un nombre extraordinaire d'intellectuels et d'artistes qui vont vouloir aller découvrir cette patrie du socialisme. Et d'ailleurs, ce qu'a montré un colloque qui s'est tenu hier au Centre Pompidou, c'est que la pensée même qui émerge à l'époque en URSS, elle va se diffuser dans nos pays. On sait bien qu'Aragon va essayer de proposer une adaptation française du réalisme socialiste qui va connaître son apogée après la Seconde Guerre mondiale. C'est donc une esthétique ouverte et un pays qui reste malgré tout ouvert jusqu'à évidemment...
Et André Breton flotte dans dans l'esprit du temps ou pas du tout, Valérie ?
Oui, il n'existe plus, enfin, je veux dire, de manière, il n'a pas d'existence officielle. Ce n'est pas un artiste du tout qui compte en URSS.
Mais il observe.
Oui. Lui, oui.
Il observe et il critique, bien entendu.
Bien sûr.
Il critique de façon extrêmement virulente. On sait bien que tous ces artistes proches de la mouvance trotskiste vont s'opposer à l'évolution des arts en URSS et à leur instrumentalisation par le régime stalinien. Ça, c'est tout à fait clair.
Et alors, on parle de la qualité des artistes figuratifs, irréalistes soviétiques de l'époque. Il y a une qualité du cinéma soviétique de la fin de cette période, à partir de 1935.
Il y a des choses, en tout cas, qui méritent vraiment d'être vues. Il y a des films,
souvent, j'ai l'impression que vous pensez qu'on les a mal regardés.
On les a peu regardés.
En fait, pas assez, oui.
Très peu. Il y a des films absolument extraordinaires qui sont dépourvus d'ailleurs de toute idéologie. On y trouve de la comédie musicale, comme nous en passons un petit extrait dans l'exposition. Il y a des comédies d'aventure, disons. Il y a des films de genre qui utilisent des motifs politiques d'histoire de saboteurs, etc., mais qui ne sont autres finalement que des films d'aventure avec méchants, n'est-ce pas, au fond d'une mine, se poursuivant, enfin, on ne croirait pas du tout, ça a quelque chose, disons, de tout à fait étonnant quand on regarde un peu attentivement ces films méconnus.
Alors vous êtes intéressée, Valérie, à cette période de façon passionnée, parce qu'effectivement elle était très complexe. Est-ce que vous trouvez illégitime que le visiteur soit pris d'une certaine mélancolie dans l'exposition, non pas parce qu'elle manquerait de charme ou de passion, elle est passionnante et elle a du charme et elle a de l'émotion à chaque instant, mais parce que on a l'impression d'un immense espoir qui s'effondre, d'un immense espoir déçu, un projet qui n'a au fond jamais eu lieu, porté par des artistes extraordinaires qui ont atteint des formes absolument stupéfiantes par rapport à ce qui a été fait au XXe siècle et qui se sont effondrés.
Oui, bien sûr. On ne peut pas nier cet aspect des choses, n'est-ce pas ? La répression qui s'abat à partir du milieu des années 30 est un fait absolument évident. La grande terreur la réduction du discours et du discours critique aussi, qui fait que on ne discute plus que de la psychologie des personnages en littérature ou au théâtre, sans vraiment plus avoir d'espace de réflexion formelle, n'est-ce pas? Ça, c'est un fait. Cela dit, la complexité du réel et la complexité de la vie artistique sous-jacente et parfois non officielle reste quand même, dès qu'on commence à un peu creuser, elle affleure rapidement.
On voit qu'en dessous de cette aventure, il y a une complexité incroyable. D'ailleurs, des commissaires qui avouent dans leurs journaux intimes ne pas être du tout d'accord avec ce qu'ils font. C'est très étrange. C'est une exposition absolument passionnante. Merci infiniment, Valérie Posner, de nous avoir éclairé avec vos connaissances. Nicolas, bravo pour cette exposition.
Merci beaucoup, Jean.
Merci beaucoup.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Nicolas Liouchi-Goutnikov, qui est le conservateur au Centre Pompidou, commissaire de la grande exposition rouge qui se trouve en ce moment au Grand Palais, et l'une des co-auteurs du catalogue, la grande chercheuse Valérie Posner. Merci beaucoup, Valérie. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Lecture des textes, Johanna Nizar, une émission préparée par Héloïse Alluin et conçue en collaboration avec Seam Boutata. Prise de son, Claire Levasseur, réalisation, Thomas Jost. Et la semaine prochaine, nous découvrirons le monde des pré-raphaélites, un monde rêveur. À 15h30, vous retrouverez Joël Gaillot pour son émission Une saison au théâtre. Et dans quelques instants,
personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.